Bonjour Pierre Cernat.
Bonjour.
Vous êtes l'un des quatre responsables de ce remarquable livre que je montre à la caméra avec Clémentine Giraud, Violette Pouillard et Margot Spruit. Vous, Pierre Cernat, donc, ce livre s'appelle « Animaux et humains, une histoire partagée de la préhistoire au XXIe siècle » et c'est édité chez Textuel. Alors, comme on dit, c'est un beau livre au sens de très bien édité. Il a de la main aussi, on emploie cette expression, il est costaud. Et en plus, il y a des illustrations à foison, un peu comme la couverture qui nous montre un tableau foisonnant qui mélange, on va le voir, humains et animaux, ou animaux et humains. Et puis, ça ressemble un peu d'ailleurs au catalogue d'une exposition. Hein. Alors, je précise qu'il a reçu le soutien pour être publié du Centre national du livre, de la région Île-de-France et puis du prestigieux Institut universitaire de France, dont vous êtes membre honoraire, vous, Pierre Cernat, on va y revenir. Permettez-moi de présenter en quelques mots vos trois co-autrices, si vous voulez bien, puis après je dirai quelques mots sur vous. Alors, Clémentine Giraud est doctorante en histoire médiévale à l'École des hautes études en sciences sociales et à l'Université Paris-Cité, et sa thèse, rien inventé, je fais référence à la notice biographique en fin d'ouvrage, porte sur une histoire du bon gouvernement de la maison, telle que celle-ci se redéfinit dans le contexte urbain en France du Nord et en Bourgogne, entre le XIIIe et le XVe siècle. Violette Pouillard est chargée de recherche au CNRS, elle est professeure université à Ghent University, qui est en fait l'université néerlandophone de la ville de Belgique, de Gand. Et elle a entre autres travaillé sur l'histoire des zoos en y étudiant la dimension impérialiste de ces zoos. Margot Spruit, elle est docteur de Sorbonne Université en histoire de l'art du Proche-Orient ancien, d'où toute une partie sur laquelle qu'on va évoquer autour du Proche-Orient ancien. Elle est actuellement, comme on dit, dans un sigle dans l'enseignement supérieur et l'éducation nationale, en toujours le secret, à terre, ça veut dire attaché temporaire d'enseignement et de recherche, à l'université de Clermont-Auvergne. Et elle a, pour sa part, interrogé la place des animaux dans la mise en scène des conflits militaires et cinégétiques dans l'Antiquité. Je termine par vous, Pierre Cernat, parce que comme vous êtes là, c'est vrai, je ne vais pas faire beaucoup plus long, mais quand même, vous êtes professeur d'histoire de la Révolution française à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous présidez la Commission internationale d'histoire de la Révolution française. Et puis, vous avez dirigé pendant 8 années une structure qui a intégré une autre, l'Institut d'histoire de la Révolution française. Donc, je l'ai dit, vous avez été à l'Institut universitaire de France. Moi, j'avais pris un réel plaisir en 2017 à lire un livre qui est sorti chez Fayard et qui s'appelle « Comme des bêtes ». Et puis, dernière publication chez Champvallon, la co-direction du dictionnaire historique et critique des animaux. Alors, je précise que vous avez publié en 2019 chez Champvallon un livre intitulé « L'extrême centre ou le poison français 1789-2019 ». Et puis, celles et ceux qui nous regardent et qui nous écoutent pourront lire le récent entretien que vous avez accordé au journal Le Monde le 8 octobre 2025 sur votre analyse du comportement de l'actuel président de la République. Alors, venons-en au livre que nous allons présenter ensemble. Première surprise pour un lecteur non avisé du sujet de votre livre, c'est parfaitement mon cas, je le précise d'emblée, dès la première ligne, de la première page d'un texte qui est votre introduction générale, je lis « L'histoire partagée entre animaux autres qu'humains avec un H, avec un A majuscule et humains ». Alors, vous expliquez dans une première note infrapaginale, bon, qui est d'ailleurs au sens strict une note marginale, mais enfin, vous connaissez la célèbre phrase de Michel Foucault, « La marge fait partie de la page », donc on est dans le texte. Vous expliquez sur ce choix, pourquoi cette appellation animaux autres qu'humains et humains. Je voudrais que vous nous donniez cette première explication.
C'est d'abord le fruit d'une longue réflexion avec les trois autrices que vous avez présentées. Comment appeler un animal sans que le terme soit dépréciatif, c'est-à-dire que bon, il est banal, mais on a considéré que ce que l'on appelle les animaux ne sont pas des êtres quelconques. Donc la vraie question a été de se demander comment dans le monde des vivants, qui était le déterminant le plus important, nous allions distinguer pour le lecteur ce qui sont les êtres humains, tout en considérant que la révolution naturaliste du XVIIIe siècle avait mis en valeur d'autant plus le règne animal que l'homme était le premier des animaux. Cela ne voulait pas dire qu'il en était le meilleur, il était le premier des animaux, et les autres ne s'appelaient qu'animaux. Et pourtant, l'homme était déjà lui-même un animal, si l'on en croit la révolution naturaliste du XVIIIe siècle. Donc, plutôt que catégoriser les animaux simplement comme animaux, puisque les humains sont aussi des animaux intelligents, eh bien, il y a des animaux qui sont autres, avec un A majuscule, qu'humains.
D'accord.
Voilà quel a été notre réflexion.
C'est très clair. Alors, la lecture de votre livre, elle est aisée, je le dis pour, j'espère, les nombreux lecteurs, hein, car le contenu est structuré en courtes notices qui dépassent rarement les trois pages, illustrations comprises, très belles illustrations, je l'ai dit tout à l'heure, et où le lecteur, un peu tel Michel de Montaigne, pour lequel vous consacrez d'ailleurs un passage, le lecteur voyage à saut et à gambade. Il peut déambuler entre les époques, entre les sujets, au milieu d'un bestiaire constitué d'animaux autres qu'humains et humains, imaginaires, mythiques ou bien réels, sur un temps particulièrement long, puisque vous le faites partir de 40 000 avant notre ère et l'achever aujourd'hui. Donc, 105 notices, entre la première qui est intitulée « 5 Vénus dans un troupeau de bisons », dans la fameuse grotte Chauvet en Ardèche à Pont d'Arc, peinte 38 000 ans avant notre ère, et puis la dernière, page 279, consacrée à Eibo, le robot chien ou le chien robot, dans la version 4.0, a été mise sur le marché par Sony en 2018. Alors, on sait bien que la périodisation en histoire est une question complexe. N'étant pas historien moi-même, je n'en dirai rien, mais j'aimerais que vous nous expliquiez le choix éditorial qui a été le vôtre pour partager cette très longue fresque historique de 40 000 ans avant notre ère à nos jours. Alors, vous avez retenu 6 parties, vous allez nous expliquer après pourquoi. Non, je l'ai dit, hein, pour que le lecteur les ait bien en tête, les temps préhistoriques, coexistence et partage, de 40 000 à 4 000 avant notre ère. Deuxième partie, sauvage ou domestique, les animaux antiques de 3300 au 6e siècle avant notre ère, les bestiaires d'empire du 5e siècle avant notre ère au 12e siècle après Jésus-Christ, l'âge des bêtes, d'un hybride à l'autre, de la fin du 12e au 17e. Vous voyez, là, c'est un point sur lequel on reviendra, mais vous avez volontairement effacé la fameuse limite entre Moyen-Âge et Renaissance, vous en expliquez d'ailleurs. Cinquièmement, l'époque moderne, la révolution des rapports animaux-humains de la mi-17e au début du 19e, et ça couvre ce que vous appelez, cher Pierre, la révolution naturaliste, quoi, hein. Et puis, sixièmement, industrialisation et sensibilité à l'ère contemporaine, 19e et 20e. Alors, comment s'est opéré le bornage de vos parties? Est-ce que ça s'est fait tout seul ou est-ce que vous avez discuté entre vous quatre?
Nous avons longuement discuté entre nous quatre. Tout simplement pour respecter la philosophie de notre projet. La philosophie de notre projet, vous le voyez, vous l'avez dit au travers de cette très belle couverture, c'est animaux et humains. C'est la conjonction de coordination qui est déterminante. Nous, et vous avez parlé, si vous me le permettez, c'est plus que des illustrations grâce au savoir-faire professionnel de Textuel qui est remarquable. C'est un dialogue entre des textes et des représentations, des images. Après tout, les animaux peuvent vivre ou pourraient vivre sans nous. C'est nous qui nous représentons les animaux, c'est nous qui dessinons les animaux, c'est nous qui écrivons sur les animaux. Et donc, nous voulions absolument, si vous regardez bien toutes ces images, toute cette iconographie, qu'il y ait toujours des humains avec des autres qu'humains. Je vais dire désormais des animaux, des animaux avec des humains, parce que l'on voulait véritablement que ce ne soit pas un livre sur les animaux, mais que ce soit un livre avec les animaux. Donc c'est une histoire avec les animaux. Et cette histoire avec les animaux, il ne vous a pas échappé que les animaux se moquent un petit peu du Moyen-Âge, de l'Antiquité, de l'époque moderne et de l'époque contemporaine. Donc on s'est dit, en fait, faisons un pas, faisons un saut, ayons une petite audace. allons avec les animaux vers une histoire qui, si on la fait vraiment avec eux, ne respecte pas forcément le sac de Rome, ne respecte pas forcément les dates canoniques de la prise de la Bastille, ne respecte pas forcément ce que pourrait être la Renaissance. Et fort de ce compagnonnage intellectuel avec les animaux, des périodes ont bougé. Avant la domestication, puis la domestication, puis le temps des premiers empires, le temps du Moyen-Âge qui ne correspond pas à cette longue période qui irait du 4e siècle au 15e siècle. Il y a un temps qui change avec les hybrides. Et puis le temps de la Révolution qui ne commence pas simplement avec 1789. Il y a des révolutions scientifiques qui, sans elle, n'aurait jamais donné la possibilité de voir éclore les révolutions politiques. Et ensuite, il y a cette période de l'industrialisation, la période moderne, de la technicisation, dans laquelle nous sommes tous pris, puisque vous faisiez référence à Michel Foucault tout à l'heure, les technostructures, le biopouvoir, on ne peut pas mieux l'appeler, portent sur le corps de tous les vivants, humains et autres qu'humains. Donc, grâce aux animaux, j'allais dire, nous avons pu réfléchir tous les quatre à une nouvelle périodisation qui nous a permis justement de mieux écrire une histoire avec les animaux.
Alors, vous avez employé vous-même, Pierre Cernat, cette notion d'histoire entremêlée hein, entre animaux et humains. Hein, vous dites aussi d'ailleurs que dans ce livre, et j'y pense par rapport au dialogue entre les images et le texte, on est dans une iconopolitique, c'est un terme que vous employez. Oui. Et sur les histoires entremêlées, j'ai retenu, c'était dans votre introduction, vous dites, pour que nos spectateurs comprennent bien, en étudiant la vie d'un cheval de roi et en la rapprochant de celle du palefrenier, on étudie donc la complexité d'une histoire politique. Et d'une certaine manière, c'est très clairement ce que vous venez de dire. Hein. Le livre rend compte de la place, dites-vous, page 13, des individus animaux dans des communautés, des environnements qu'appréhende l'écologie scientifique à partir du début du XXe siècle et que d'ailleurs manifeste des épisodes marquants. Et en particulier, vous dites les zoonoses. Il y a une vraie actualité, d'ailleurs, dans votre livre. Hein. C'est tout ce qu'on connaît aujourd'hui hein, dans la relation, les dépendances entre humains et autres qu'humains. Alors, première histoire que vous nous racontez, elle est extraordinaire. C'est la grotte Chauvet. Hein. On va pas détailler la grotte Chauvet. Vous dites qu'il y a des centaines de représentations animales différentes. On est vers moins 38 000. Hein. Pour avoir une idée, Lascaux, on est plutôt vers moins 20 000. Hein. Des centaines de représentations, 14 espèces différentes. Et il y a le très célèbre Pendant du sorcier ou Pendant de la Vénus. Ce tableau... c'est pas un tableau, hein, cette œuvre d'art. Je la montre juste à l'écran pour qu'on la voie. C'est quand même tout à fait extraordinaire. Je monte à la caméra. On dirait presque du Gustave Courbet avec l'origine du monde. Enfin, c'est tout à fait étonnant hein, dans la qualité graphique. Qu'est-ce que l'historien que vous êtes? Même si vous avez pris la précaution de dire que vous êtes spécialiste de la période révolutionnaire, mais qu'est-ce que l'historien peut dire de cette relation humain et animaux à la préhistoire?
Alors, par la plus grande des modesties et évidemment honnêteté intellectuelle, oui. Cette page-là, très concrètement, est signée Margot Spruit.
Hein, exactement.
Pour l'Antiquité, Clémentine Giraud plutôt pour le Moyen-Âge,
et
le période moderne.
Et Madame Pouillard, Violette Pouillard pour
contemporaine. Donc, nous avons travaillé tous les quatre, mais à chacun revient ses mérites selon ces périodes-là. En réalité, et le titre, vous me permettrez de revenir sur le titre, parce que c'est un beau livre, certes, mais c'est un livre qui est engagé. C'est-à-dire que c'est un livre qui est construit, nous l'espérons tous les quatre, toutes et tous les quatre, de la manière la plus rigoureuse, la plus scientifique, la plus documentée, la plus référée possible aux documents précis, mais nous portons aussi un message, nous portons aussi un discours, nous avons aussi une constitution politique au sens de la police, pas des idées politiques, au sens de la police, c'est-à-dire ce qui est écrit dans le titre, qui est déjà le message, une histoire partagée. Qu'est-ce que ça veut dire, si vous me permettez, je ne m'éloigne pas du tout de la question que vous m'avez posée. Pas d'animaux, pas d'hommes. Pas d'animaux, pas d'hommes. Les animaux pourraient vivre, du moins beaucoup d'entre eux. Nous avons créé des animaux qui sont complètement dépendants de nous. Pensons aux animaux domestiques, aux vaches. Mais la plupart des animaux pourraient vivre sans les humains. Pas les humains. Donc c'est une histoire partagée, où nous devons beaucoup aux animaux. Et les hommes et les femmes de la préhistoire le savaient d'autant plus que nous supposons, nous faisons des hypothèses, comme l'explique très bien Margot Spruit, on imagine que dans ces grottes-là, il pouvait y avoir des incantations, il pouvait y avoir des appels peut-être à des esprits. En attendant, il y avait des représentations, et cette représentation est particulièrement belle et troublante à la fois, qui représente un front de bison et un triangle pubien qui nous interpelle.
Il y en a cinq. Et vous dites qu'il y en a. Enfin, Margot Spruit dit qu'il y en a cinq. Il y a cinq pubis qui sont montrés dans la grotte. Hein, voilà.
Oui. Alors, c'est une histoire partagée, c'est-à-dire que on est incapable, on ne peut pas rigoureusement expliquer pourquoi exactement ils sont là. Ils sont ensemble. Ça, on peut le voir. On peut le dire, ils sont ensemble. Et cet ensemble-là, avec les animaux, est déterminant pour nous, parce que cela veut dire que, je ne sais pas si on peut les appeler des artistes, en attendant, ceux qui ont pris un fusain, ceux qui ont pris des pigments, et qui les ont posés sur des animaux, superposant des êtres humains, ou superposant des animaux sur des êtres humains, ont pensé que les deux natures de vivants pouvaient fonctionner ensemble, ou du moins ne s'excluaient pas l'un l'autre. Voilà ce que l'on peut dire. Et qui rend d'abord cette photographie choisie par Margot Spruit magnifique, et qui fait qu'on comprend que dès 38 000 avant Jésus-Christ, il y a une interaction, c'est une intersection existentielle, c'est ce que nous avons voulu montrer, une intersection existentielle entre les animaux et les humains qui ont besoin en permanence des animaux pour survivre, pour vivre, et qui peuvent dès lors avoir des rapports de domination, puisque vous faisiez référence à Foucault, des rapports parfois de soumission aux esprits des animaux, nous pouvons le supposer, en attendant des rapports qui sont charnels, qui peuvent être plus amicaux, parfois plus violents, bien évidemment, ou plus spirituels. C'est ce que l'on peut imaginer en regardant cette très belle photographie de la représentation du mur de la grotte de Chauvet.
Et ce qui est fascinant d'ailleurs, c'est que cette synchrèse quelque part entre animaux et êtres humains, elle se perd aussi par le biais de la terre, par le biais de la pierre, parce que c'est sur la roche. C'est en utilisant les fractuosités de la roche, en utilisant les protubérances de la pierre, que les artistes de l'époque ont aussi peint. C'est-à-dire que le fameux pendant du sorcier, c'est parce qu'en fait, c'est une utilisation d'une concrétion géologique. Et donc, c'est assez extraordinaire de voir cette triangulation entre animaux, humains, et puis la terre, en quelque sorte, ou la pierre.
Oui, voilà. Tout à fait. Et je dirais que bon, cette très, très, très belle partie d'histoire de l'Antiquité sous la responsabilité de Margot Spruit montre là encore un des messages du livre.
Ouais.
Une écologie morale.
Oui, c'est ça.
On a longtemps parlé d'une économie morale en référence aux travaux de Hippie Thompson. Mais là, nous avons travaillé, nous aussi, dans l'esprit d'une écologie morale. Et vous le dites très, très bien. Cette écologie morale qui renvoie au minéral, au végétal et au vivant de l'animal. Oui. Et ces représentations-là le montrent bien, entre les pigments qui viennent parfois de plantes, cette utilisation de la pierre, et finalement cette main. Et on voit là, comme vous le faisiez remarquer, à quel point l'animal demeure un mystère, une énigme, une beauté pour nous, car l'animal est fondamentalement une représentation. Il est présent, et en même temps, il est représenté. Cela veut donc dire qu'il reste et qu'il demeure grâce à l'intervention de la main humaine.
Il y a un passage que j'ai beaucoup aimé. Vous faites référence à James C. Scott. C'est un anthropologue anarchiste états-unien, professeur en bonne et due forme, si je puis dire, à l'université de Yale. Il est mort en 2024. Alors, au moins, il n'aura pas connu le deuxième mandat de Trump. Il aura au moins échappé à ça, parce que j'imagine qu'étant professeur à l'université de Yale, il n'est pas dans les petits papiers de Trump. Alors, la particularité de Scott, c'est qu'il a élevé des moutons toute sa vie à côté du campus de Yale. Et vous en parlez parce que c'est dans un chapitre qui s'appelle « L'humain domestiqué par les bêtes ». Alors là, moi, j'aime bien cette inversion du schème classique hein, qui montre quelque part, et ça, c'est pendant tout le livre que l'on va voir ça, que l'humain se trouve en quelque sorte, vous l'avez dit, amené à une forme de domestication par les bêtes dont il s'occupe. Il y a une sorte de dialectique assez étonnante là.
Oui, merci de faire référence à cet immense anthropologue qui est James Scott, dont le livre Homo Domesticus est pour moi vraiment un livre alors, qui est au centre des débats, des controverses, des critiques, mais dans le meilleur sens du terme, c'est-à-dire qu'il fait débat parce que c'est un livre particulièrement intelligent. Et vous avez perçu ce qui a été, là encore, une de nos préoccupations. Ne pas avoir un rapport de simplification ou de réduction des rapports entre animaux et humains. Les animaux ont des rapports entre eux, qui peuvent être conflictuels, qui peuvent être non conflictuels. Les humains ont des rapports sociaux, de politiques, qui peuvent être conflictuels ou pas. Et à l'intérieur de cette bipolarité, rapport des animaux entre eux, rapport des humains entre eux, eh bien, il y a des rapports aussi entre les humains et les animaux, qui fait que, justement, nous avons refusé toute forme de simplification qui voudrait dire, selon un discours faussement empathique avec les animaux, dont il faut parfois se méfier, effectivement, qui consiste à dire, par exemple, « Ah, il y a d'un côté les humains qui sont plutôt les méchants et les animaux qui sont plutôt les victimes. » C'est un peu plus complexe. Bien évidemment, nous vivons un moment terrible pour l'espèce animale quand on voit les milliards d'animaux qui sont chaque année tués. Mais il n'en demeure pas moins. Dans la complexité des relations, il peut y avoir des humains qui sont parfois moins bien traités que des animaux. Et il peut y avoir des animaux qui sont bien mieux traités que des enfants esclavagisés, par exemple, aujourd'hui même. Donc, c'est important de réfléchir. Et c'est pour cela que ce n'est pas une histoire sur les animaux. Ce n'est pas une histoire des animaux, mais c'est une histoire avec les animaux. Et que montre justement Scott ? C'est que vers moins 9000, moins 7000 avant notre ère, moins 9000, moins 7000 avant notre ère, dans la Mésopotamie, donc entre le Tigre et l'Euphrate, à un moment donné, des peuples nomades se sont opposés à d'autres groupes humains qui ont voulu s'enfermer, se défendre dans des cités. Et ce que l'on voit comme un progrès de la civilisation, l'anarchiste qui est Scott dit « attention, nuance ». Moi-même, j'ai passé une vie à élever des moutons, vous le rappeliez, tous les jours levés à 5 heures du matin, constamment soucieux de la santé de mes moutons, pas de vacances, point d'heure de nuit dans le cas où les moutons viendraient aller, ou s'ils seraient malades. Donc, qui est domestique de qui ? Et il dit, ben, finalement, pour mon plus grand bonheur, j'ai été le serviteur des animaux, qui me le rendaient bien à leur tour. Mais dans une construction sociale, militaire, martiale et politique de ces premières cités de Mésopotamie et du Moyen-Orient, bien évidemment, assigner à des humains le rôle de garder les animaux était les placer immédiatement en infériorité sociale par rapport aux clercs, par rapport aux nobles, par rapport aux négociants, par rapport aux militaires. Et donc, il y avait des classes inférieures, et j'emploie le terme à escient, des classes inférieures qui regroupaient indifféremment humains et animaux qui devaient s'occuper les uns les autres pour que les plus riches puissent manger les animaux, puissent avoir des animaux à disposition. C'est là que le livre de Homo Domesticus est passionnant parce que en s'enfermant dans des villes, les hiérarchies sociales ont commencé à se construire, des oppositions avec des tribus qui restaient nomades et plus libres avec leurs animaux, et l'enfermement dans les murs des cités a commencé à créer, bien sûr, l'arrivée en masse d'insectes, mais également donc de souris, de rats, et donc des zoonoses qui ont commencé dès l'Antiquité et dont nous ne sommes manifestement pas sortis.
Je vous écoute avec passion. Je pense à différents chapitres du livre, dans ce que par la suite, et en particulier quand vous disiez certains animaux se sont retrouvés parfois mieux traités que des êtres humains. Ben, c'est le chapitre sur Madame Chimpanzé. On en dira un mot tout à l'heure. Madame Chimpanzé, c'est ce singe qui à Londres, en pleine période d'esclavage et d'esclavagisme, se trouve montré dans les salons de thé, comme s'il y avait une sorte de confusion tout à fait perverse, entre certains animaux et puis des êtres humains. Alors, je voudrais qu'on évoque un personnage que vous connaissez qui est tout à fait passionnant, c'est Ésope. Alors, on sait que c'est le grand maître de La Fontaine. Margot Sprit il consacre un passage à ce fabuliste. On le connaît finalement assez peu. Il a vécu entre moins 620 et moins 564 de notre ère. Il a écrit plus de 350 fables, dit Margot, mettant en scène plus de 80 espèces animales, avec un bestiaire tout à fait étonnant, dont par exemple le renard est une vedette. Il est extrêmement volubile, il parle tout le temps. C'est souvent, dit Margot Sprit, l'animal le plus intelligent. Et elle nous dit, par le recours aux animaux, Ésope opère un déplacement qui l'autorise à traduire et dénoncer les travers de comportement humain. Alors ça, c'est tout à fait remarquable parce que en réalité, Ésope était laid, dit-on, difforme. Et plus ou moins encombré dans son expression orale, et on a l'impression qu'il a trouvé chez les animaux une sorte d'écoute qui lui permet de mieux comprendre l'humanité. Je me trompe ou pas?
C'est l'hypothèse que développe Margot Sprit également, donc de façon tout à fait talentueuse. C'est cette idée, à partir de ce moment-là, à partir donc on rentre dans le premier millénaire, donc on a davantage donc d'éléments, de documents, de représentations et de figures d'un anthropocentrisme qui ne va pas exclure, bien évidemment, donc la richesse métaphorique et suggestive des animaux. Et l'observation des animaux, l'observation des sociétés des animaux, l'observation des caractères des animaux, car fondamentalement c'est de cela dont on parle, va en fait provoquer dans l'intelligence humaine des sortes de projections vers ce que l'on suppose, car Ésope a été un des premiers à le mettre par écrit, à ce que l'on suppose être des caractères des animaux. Le renard est rusé, le loup est plus méchant, le serpent est fourbe, la cigale n'est pas économe. Et on va avoir donc une sorte de construction d'une relation intellectuelle, ou du moins symbolique, entre ce que peuvent être les animaux, ce qui veut donc dire qu'on les a observés, ce qui veut dire que Ésope les a analysés, et qu'il y a une forme d'empathie en attendant une forme de possibilité intellectuelle de comparaison, et c'est beaucoup, de comparaison aux comportements à animaux. Ça me fait penser à, ils nous font penser à. Et donc il y a une mécanique d'un début de dialectique, si l'on peut dire, qui, à partir de ce moment-là, dans la culture donc grecque et dont nous sommes les héritiers, ne va plus échapper, ne va plus manquer de marquer l'intelligence des humains, cette proximité des animaux.
Ce qui est fascinant aussi, c'est, et ça va se développer alors dans une autre partie qui est autour de l'ère chrétienne, ce que vous appelez l'influence, les animaux à la table des chrétiens, ça c'est un des chapitres écrits par Clémentine Giraud. Mais ce qui est fascinant avant cela, c'est la relation que l'on va trouver entre animaux et religiosité. Alors bien sûr, par la pratique des sacrifices animaux, hein, qui vont d'ailleurs progressivement venir se substituer aux sacrifices humains, hein, mais aussi parce que il va y avoir une sorte de, là encore, de partage, de destin commun entre animaux et humains dans leur relation à des divinités. Et là, par exemple, l'épisode des oies du Capitole, des oies romaines du Capitole, est tout à fait passionnant. Parce que c'est une histoire qu'on connaît, hein, les oies se mettent à brailler, alors que, j'allais dire, nos Gaulois batailleurs, comme disait l'autre, ont mis à sac Rome, hein, avec le fameux Brennus, hein, je dis aux amateurs de rugby, aucun rapport avec le bouclier de Brennus, hein, le chef gaulois qui prend d'assaut Rome en août 390 avant notre ère, hein, et sur le point avec ses hommes de battre de prendre le Capitole d'assaut, hein, les Romains sont épuisés, c'est un siège, ils se sont endormis, même les chiens dorment. Hein, et ce sont les oies qui alertent les Romains, hein, de ce qui se passe. Et ce qui est très intéressant, c'est que les oies, elles sont en fait du domaine du temple de Jupiter. Elles sont sacrées. Et ce qui est bien, c'est que l'histoire, on la connaît peu, mais au lieu de les manger, les Romains qui avaient faim, ils les ont conservées vivantes. Ça, c'est extraordinaire comme histoire. Et ce sont les chiens qui vont être mis en cause parce qu'eux, ils ont dormi. C'est une histoire qui est tout à fait étonnante, ça, non ?
Oui, c'est tout à fait étonnant. Et donc, vous avez terminé, vous me permettez de poursuivre sur ce que j'allais compléter par rapport à ce que vous avez parfaitement bien résumé. Les humains, si vous me permettez cette expression-là, sont incorrigibles. C'est-à-dire que quand ils magnifient un animal, souvent, c'est un autre animal qui en fait... C'est souvent un autre animal qui en fait les frais. Et ainsi, certes, les oies du Capitole ont été et sont célébrées tous les 3 août, ensuite ouais, dans l'Antiquité. Ouais. Donc, mais en même temps, vous voyez, on magnifie un animal pour mieux domestiquer, voire punir un autre animal. Et effectivement, les chiens, je n'y étais pas, mais il m'étonne que les chiens étaient complètement endormis. Les chiens sont généralement bons gardiens. Donc en fait, je pense que le fait réel a été largement exagéré, à mon avis. Ça donne une histoire intéressante, mais qui cache toujours une autre histoire où faire du bien à des animaux, généralement, c'est aussi faire du mal à d'autres animaux.
Vous vous rendez compte que Tite-Live, qui raconte cette histoire, dit même que les chiens ont été crucifiés.
Oui, tout
exactement, comme des esclaves révoltés, comme Spartacus, enfin, ou évidemment comme le Christ plus tard, quoi. Hein. On les condamne comme des êtres humains. Voilà. Alors, on aborde aussi un autre aspect qui est passionnant autour de ce que Norbert Elias appellerait les coutumes de repas, enfin de mœurs, hein. C'est la table des chrétiens et c'est la question des interdits alimentaires. Alors là, j'ai découvert que les chrétiens ont eu à un moment des interdits alimentaires qui étaient proposés par un moine irlandais au nom improbable, Adomnan Diona, qui avait établi 20 règles distinguant animaux purs et impurs. Alors là, on y lit que si un animal a eu des rapports sexuels avec un humain, il ne peut être mangé. La formule est telle quelle quand même. Hein, bon, hein, mais plus encore, si un animal, souvent un porc ou une poule, a consommé des morceaux de corps humain, il n'est plus pur. Et là, je me dis, mais ce qui est tout à fait fascinant, c'est pas l'animal qui souille l'humain, c'est l'humain qui souille l'animal.
Oui. Vous avez tout à fait raison. Il y a évidemment, donc, dans cette histoire partagée, un partage qui est celui le plus inégal qui soit, c'est-à-dire la masse depuis l'Antiquité des animaux qui sont mangés, ingurgités par les humains. Et en même temps, vous avez vu, il y a un passage très très important dans la longue antiquité, le long début du Moyen-Âge, qui est, vous-même vous l'avez rappelé, mais qui est essentiel, le rapport des animaux au divin. On est sorti simplement de l'animal chassé. On est sorti de l'animal simplement domestiqué. L'animal a un mystère. Et il est peut-être lui-même en relation avec les dieux. Et peut-être que les dieux ont des relations avec lui, au sens le plus matériel qui soit, pensez à Zeus et Léda, par exemple. C'est-à-dire que des divinités peuvent avoir des rapports amoureux avec des animaux. Il peut y avoir donc des êtres mythologiques qui sont de double nature. Donc l'animal a un nouveau statut. Et s'il a un nouveau statut, le manger ne va pas de soi. Le manger ne va pas de soi. Parce que, très vite, la question de la pureté, de l'impureté que vous avez signifiée, est au centre des relations que l'on a avec la nourriture. Le deuxième élément, c'est bien évidemment les maladies que l'on interprète, que l'on surinterprète après avoir mangé tel ou tel animal. Le troisième élément, c'est bien évidemment des espaces, des civilisations, des sociétés où on est en permanence en proie à la hantise de la faim. On crève de peur de mourir de faim. On crève de peur de mourir de faim. Et les végétaux ne suffisent pas toujours, loin de là. Donc la vraie question, c'est quels sont les bons animaux à manger ? Et parmi les bons animaux à manger, posons la question de façon quelque peu rude, mais parce que Clémentine Giraud nous y invite à la poser. Tiens, pourquoi on ne mangerait pas des humains ? Ben, pourquoi ? La question cachée de la pureté ou de la souillure, c'est évidemment la hantise du cannibalisme, de l'anthropophagie. Donc, tout animal qui aurait pu un tant soit peu ingurgiter quoi que ce soit qui relève de la peau humaine, du sang humain, qui aurait pu rogner des os humains, devient par là même un animal porteur, malgré lui, vous l'avez bien dit, donc d'une souillure dont il faut se prévaloir. Et donc voilà pourquoi, bien souvent, le porc, par exemple, va être très vite, puisqu'il mange de tout avec gourmandise, le porc va être très vite dans certaines religions, la religion juive, puis après l'islam, considéré comme un animal impur. Là où la volonté pour les chrétiens catholiques d'accueillir le plus possible de, entre guillemets, barbares ou de, entre guillemets, sauvages, va faire accepter en fait, des régimes alimentaires très variés, là où vous avez raison de dire que les premiers chrétiens se rapprochaient d'un végétarisme tout à fait évident au nom du fait que les animaux étant créatures de Dieu, les premiers chrétiens, nous supposons qu'ils avaient beaucoup d'égout à manger des animaux, oui.
Alors, on avance dans le temps et on arrive à la quatrième partie. Ça tombe bien parce que c'est vous avec Clémentine Giraud qui avez écrit le texte qu'il introduit, L'âge des bêtes, d'un hybride à l'autre. Et cette partie, elle couvre 5 siècles, de la fin du 12e au 17e. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, donc avec cette scansion du temps qui est propre à votre démarche. Alors, c'est une partie foisonnante avec 20 notices très variées, puisqu'il est question pour la première d'entre elles de la féminisation du serpent de la tentation. Alors, ça, c'est tout à fait passionnant, où on voit le serpent qui est dressé, mais avec une tête de femme. Ça, c'est tout à fait remarquable. Et puis, la dernière, alors là, c'est avec une gravure qui est saisissante, c'est l'interdiction de la xénotransfusion de la bête vers l'humain, dans ce sens-là, prononcée par la Cour royale du Châtelet, le 17 avril 1668, nous sommes en plein dans le règne de Louis XIV. Et cette année 1658, on va y revenir parce que l'historien Peter Salins dit que c'est une année particulière, 1668. Et on va y revenir parce que on va voir d'ailleurs que la relation animaux homme va même avoir une dimension géopolitique. J'en dis pas plus, mais vous l'expliquez fort bien. Alors, Pierre-Olivier Dittmar, que vous citez, qui je crois termine une thèse, enfin qui est à paraître, à moins que ça soit déjà terminé, si j'ai bien compris, ça va sortir l'an prochain. Elle dit que il évoque l'invention de la catégorie exclusive de l'animal. Vous dites, c'est à ce moment-là que va s'imposer, à l'exception d'autres termes, la bête, etc., l'animal. Et vous parlez aussi de failles où la porosité entre les catégories de l'animal et de l'humain, ça sera dans votre cinquième partie, apparaissent. Expliquez-nous cette histoire d'apparition, la consécration de l'animal.
Oui, c'est très intéressant et merci de l'avoir noté, de m'inviter à développer cette partie que j'ai eu grand plaisir à faire avec Clémentine Giraud. Sur ces siècles-là qui ne se terminent pas avec le 15e siècle, mais qui vont du 13e au 17e siècle, il n'y a pas simplement l'homme et l'humain, il y a un troisième être grâce à notre collègue très intelligent californien Peter Salins, dont vous venez de parler, donc qui a forgé cette idée qui nous a beaucoup guidés aussi dans notre recherche à tous les quatre, qui a été l'humanimalisme.
C'est ça.
L'humanimalisme, c'est-à-dire que avec le Moyen-Âge, se structure des sociétés que on pourrait qualifier de quasi modernes. Après tout, la grande scansion des trois ordres, les clercs, la noblesse, la roture, naît au XIIe siècle. Les États, comme on l'a vu, ne naissent pas avec la Révolution française. Les États naissent bien avant. Donc, il y a des cours, il y a des organisations administratives, et donc il y a aussi une gestion des animaux. Et donc, on rentre en fait sur une nuance, ou du moins un approfondissement intellectuel de la représentation, soit scientifique, médicale, avec les tout débuts de l'art vétérinaire, l'hypiatrie, soit avec une organisation militaire des cavaleries, soit avec une organisation du travail, de l'agriculture, de la domestication, qui font que, eh bien, on passe petit à petit d'une compréhension de différents statuts qui sont l'animalisation, la bestialisation et l'animalité. Ce sont trois choses différentes. Et à partir de ce moment-là, ça force à mieux définir la catégorie de l'animal. En bien, parce qu'on le... on voit mieux sa définition, et puis en moins bien, parce que ça permet de le dominer, l'exploiter de façon beaucoup plus importante. Et donc, ça permet également de mieux définir les humains, dans leur spiritualité, dans leur chrétienté, dans leur âme, qui les distingue résolument donc des animaux. Et puis, il y a, comme vous le disiez, et c'est intéressant, cette grande polarisation animal-humain n'empêche pas des porosités, des failles, des interstices, où l'humanimalisme, et on le verra avec le traité de Jean Sebon, donc publié par Montaigne, oui, par exemple,
oui,
apparaît de façon importante, qui montre en fait que, en réalité, ce ne sont pas tant les animaux qui sont inférieurs, puisque cette catégorisation sert à inférioriser les animaux, que peut-être les humains qui ne comprennent pas tout ce que nous disent, ce que font les animaux. Et c'est un élément important de la démonstration, donc, qui aboutit en 1668, l'année de l'animal, c'est la traduction du titre
de Salins.
Peter Salins, donc, à une immense polémique, à un immense débat entre scientifiques sur les xénotransfusions.
Alors, qu'est-ce que c'est ? Expliquez-nous.
L'Académie royale de Londres.
Expliquez-nous ce que c'est. Oui, oui.
L'Académie royale de Londres et l'Académie des sciences de Paris sont en compétition. La France et l'Angleterre se partagent déjà une bataille pour la puissance mondiale, et cela passe par la conquête d'empires coloniaux, de la découverte de nouveaux animaux, et cela passe également donc par des avancées scientifiques. Qui réalisera les premières xénotransfusions ? On pense, il y a deux écoles s'opposent. Une première école prétend que la qualité des animaux, la pureté du sang des jeunes animaux, donc agneaux ou veaux, et la force des animaux, doit venir soigner des personnes, soit parce qu'elles sont âgées, soit parce qu'elles ont des déséquilibres mentaux, et sont dans des formes de faiblesse que le sang animal pourrait réparer. En revanche, d'autres, plus orthodoxes, vous l'imaginez bien, les tenants d'une lecture forte d'un discours catholique, apostolique et romain, soutiennent au contraire qu'introduire du sang animal dans un corps humain ne peut que souiller l'humain et ne peut que le bestialiser et le rendre à l'égal donc d'un animal impur, prendre les caractères de cette bête. Bon, quelques xénotransfusions sont réalisées entre 1667 et le début de l'année 1668. La plupart meurent. Je me demande comment il peut y en avoir qui survivent.
Je montre la gravure, voilà, la gravure qui est absolument remarquable. Hein,
donc, qui représente... cet animal garrotté, ouais. Évidemment, hein, des centaines de milliers d'animaux sacrifiés. Donc, d'abord, on laissait des transfusions entre les animaux, puis on laissait ces transfusions entre animaux et humains. Le Parlement de Paris, représentant l'orthodoxie royale et religieuse, arrête immédiatement ces expériences-là. Mais elles disent, pour Peter Salins, donc, la fin d'un monde où l'humanimalisme a été possible. Et c'est ce qu'il appelle donc la construction d'un absolutisme 2.0. Pourquoi ? Parce que 1668, c'est l'année de l'inauguration de la ménagerie royale à Versailles, c'est l'année de la construction du labyrinthe des animaux mythiques à Versailles, c'est l'année de l'apparition des fables de La Fontaine, c'est l'année de la réédition des textes de Descartes qui sont si importantes pour comprendre justement la rupture avec l'humanimalisme, pour penser la mécanique de l'animal, puisque c'est Malebranche après qui parlera de l'homme
machine.
Mmh. Et puis c'est aussi une année importante, par exemple, c'est l'année de l'adoption par Madame Scudéry, 2 ans ou 3 ans plus tard, de son couple de caméléons, qui va être très intéressant. Et vous voyez, parler de Madame Scudéry est intéressant, parce que par rapport à la question que vous me posiez, on revient au début de la période, le serpent à tête de femme, c'est aussi une grande période où sont assignés à des groupes d'animaux et humains des positions. Et ce n'est pas un hasard si les enfants, les femmes, les pauvres, les animaux sont au bas de l'échelle de la hiérarchie. On a là des peuples différents, des populations différentes qui ne sont pas des minorités à la fin, mais qui sont considérées comme des mineurs et qui sont délégitimées.
La cinquième partie, et là encore, c'est vous qui avez rédigé l'introduction, Pierre Cernat. Vous dites que c'est 150 ans, 1650-1800, de révolution permanente, hein, au pluriel. Alors, vous avez un titre, j'aimerais que vous nous l'expliquiez. Un paradoxe n'est pas une fausseté, ou l'étrange étrangeté des animaux modernes. Le titre est magnifique, mais ça mérite une petite explication.
Oui, d'abord, il faut rendre à Diderot ce qui lui appartient, ou plutôt Jacques le Fataliste. C'est Jacques le Fataliste qui dit à son maître, alors qu'ils se promènent à cheval tous les deux, un paradoxe n'est pas une fausseté. Et je pense que c'est l'esprit de la philosophie des Lumières. Les Lumières ne sont pas ambiguës. On est en train d'attaquer aujourd'hui les Lumières sur des formes en disant qu'elles sont ambiguës, leur universalisme a été finalement contre-productif. Moi, je n'y crois pas. Je crois au contraire que les Lumières portent encore un très beau message d'universalité et de réflexion sur ce que peuvent être des rapports harmonieux entre humains et animaux. C'est le cas de Jacques le Fataliste et de ce paradoxe qui n'est pas une fausseté par rapport à un approfondissement pendant cette période-là, puisque la révolution naturaliste, celle de Linné, celle de Buffon, qui va commencer à penser une classification nouvelle, et dans cette classification nouvelle, sans aller frontalement contre l'Église, on ne peut pas. À l'époque, à moins d'être excommunié ou de se voir évidemment refuser la publication de ces textes, il y a une possibilité de dire, bon ben voilà, on sait bien que l'homme est un animal qui a une âme, il en demeure pas moins qu'on va le mettre avec les animaux. Et cette étrange étrangeté, elle va fasciner les hommes et les femmes de l'époque moderne par rapport au regard direct qui va se poser sur les animaux. C'est-à-dire que c'est le regard des animaux que les peintres vont tenter de représenter, que les illustrateurs vont tenter de représenter. L'œil du caméléon fascine Madame Scudéry. On commence à parler du regard des chiens. Et cette étrangeté, on va la retrouver dans des générations de peintres et en même temps de naturalistes qui n'hésitent pas à faire se superposer des figures d'animaux avec des figures d'humains. Comme si les caractères humains, on retrouve justement Ésope à ce moment-là, avec La Fontaine, puis après approfondi au travers d'une observation fine des animaux et du caractère des animaux, pour mieux les élever, pour mieux les hybrider, pour mieux faire le choix dans les élevages de moutons, de vaches, de chevaux, des meilleurs animaux, on va avoir donc cette idée de cette étrangeté donc des animaux qui renvoie en fait à la même importance de l'étude des animaux qui doit être portée aussi sur les humains.
Et c'est pour ça qu'après, au 19e siècle, j'allais dire, la suite de cela, mais c'est encore une autre partie, c'est évidemment tout le travail que va faire évoluer Darwin, etc., l'évolution des espèces, dans la théorie de l'évolution, forcément. Il y a un chapitre dans cette cinquième partie qui est tout à fait passionnant, c'est la chasse royale. Et en particulier, vous évoquez Louis XV, qui était un grand chasseur, qui était passionné. Alors, vous dites, la chasse chez le roi, c'est plus qu'une passion, surtout chez Louis XV, c'est aussi un héritage et une tradition royale, puisque ça lui permet de s'inscrire dans une filiation qui est celle de Philippe le Bel, qui est celle de François Ier, qui était aussi qu'on appelait le roi des veneurs, je crois, en termes de chasse. Et puis, ça m'a fait penser, mais là, on risque peut-être l'anachronisme, mais vous vous souvenez forcément de comment le président Giscard d'Estaing, qui vouait un culte, d'ailleurs, une admiration à Louis XV, était également lui-même un très grand chasseur. Et était chasseur avant d'arriver à l'Élysée. Il a été une fois à l'Élysée, par les chasses présidentielles, mais il allait aussi chasser en Pologne, il allait chasser en Afrique. En quoi la chasse royale, et en particulier seigneur ou seigneuriale, a été synonyme de privilège? Vous qui êtes un grand expert de la Révolution française, c'est une des conséquences de la Révolution française de changer le statut de la chasse. C'est politique, ça, quand même.
Ah, nous sommes au cœur de la politique royale.
Et de la politique révolutionnaire aussi.
Pour comprendre la politique révolutionnaire,
allez-y, allez-y, allez-y.
Disait Michel Vauvel, qui ne connaît pas le XVIIIe siècle, ne peut pas comprendre la révolution. évidemment, le Louis XV, mais il n'est pas le seul, Louis XVI aussi, dès le début des États généraux, préfère aller chasser plutôt que d'assister aux séances politiques des États généraux. Mal lui en a pris.
D'où la fameuse formule, je ne sais plus quel jour, rien. En réalité, c'était parce qu'il avait, il avait rien tué. Voilà.
Oui, c'était le 14 juillet. Donc, on a en fait, c'est plus qu'une passion. C'est un style, c'est une façon de gouverner. Car la chasse, pour Louis XV, devient une politique au sens clair du terme, c'est-à-dire une organisation de l'espace des forêts autour de Paris. Donc une appropriation d'immenses espaces forestiers, des centaines de personnes, des centaines de chevaux, des milliers de chiens. On a une économie cynégétique qui est particulièrement importante. Et une symbolique, évidemment, de la chasse qui est importante. Le roi chasse, on revient aussi aux très belles images choisies par Margot Sprit pour l'Antiquité, c'est une représentation du pouvoir. Il domine les vivants. Il domine tout le monde sauvage. Il est capable de le tuer, de le réduire, et il est capable de le dominer. Et l'on a aussi toutes les métaphores possibles avec ce roi qui n'était point vertueux et qui est un des grands libertins de sa période. Et évidemment, il y a d'autres proies qui sont femmes, qui sont directement liées dans l'imaginaire de la période, donc aux appétits débordants de Louis XV. Donc c'est non seulement une politique, c'est une éthique pour le roi, c'est une façon de gouverner les animaux, les hommes qui sont à ses ordres,
et les femmes
qu'il séduit au travers de ses trophées. Et surtout, il y a des dégâts considérables. Ces chiens, ces meutes, ces chevaux qui courent détruisent des biens des paysans. Et en plus, les nobles, pas simplement dans la province de l'Île-de-France, mais sur toute la France, ont des privilèges de chasse qu'ils interdisent aux roturiers. De telle sorte que lorsque l'on lit en détail finalement la façon de, et l'on étudie en détail, la façon dont les paysans, qui sont 80% des Français en 1789, ont perçu l'abolition des privilèges dans la fameuse nuit du 4 août. Il a fallu une semaine pour rédiger le décret final qui sera finalement voté le 11 août 1789. Si l'on va sur Internet, on retrouve très rapidement les différents éléments, articles de ce décret. La majorité et les premiers articles de la loi concernent la chasse et les animaux. L'abolition des privilèges pour les paysans, c'est très concrètement le droit d'utiliser leurs fusils, leur escopette, et de tirer sur tout ce qui bouge et qui a quatre pattes. L'été 1789 va être une tuerie d'animaux pour les paysans. La révolution, c'est la démocratisation de la chasse de façon très précise. Et donc, cette conquête démocratique va en fait être très importante pour accrocher les paysans à la révolution et va s'inscrire dans les mœurs paysannes pour tout le 19e siècle et un long 20e siècle.
Alors, la partie qui est consacrée à l'époque moderne, donc la cinquième partie, où la révolution des rapports animaux-humains, elle est absolument, là aussi, prodigieuse, si je puis dire. On découvre le marché de Poissy au 18e, l'interdiction de la violence faite aux animaux en Angleterre grâce à Hogarth. Ça, c'est tout à fait remarquable. La création du Muséum d'Histoire Naturelle, ou l'Éden républicain en 1793, le racialisme ou l'horreur de rassembler à des bêtes. Et il y a un chapitre, je voudrais vous entendre dessus, parce que il est remarquable. Ça se passe à Paris, le 10 Messidor en 6, le 28 juin 1798. Alors, il y a une gravure qui est tout à fait incroyable. C'est un cheval qui est à terre, avec son cocher qui le fouette. Moi, ça m'a pas fait penser, vous devez connaître cette histoire, à ce qui est arrivé à Nietzsche en 1889, le 3 janvier à Turin. On dit que Nietzsche a été interné parce qu'il a vu un cheval battu à mort par son cocher. Derrida a une page remarquable là-dessus, sur la folie de Nietzsche. C'est là que Nietzsche, après, s'enfonce, y compris dans le silence, pendant 11 ans jusqu'à sa mort. Parce que Nietzsche adorait les animaux. Il y a des très beaux passages sur le bestiaire des animaux chez Nietzsche. Cette affiche extraordinaire qui va servir d'illustration d'ailleurs à la Société protectrice des animaux s'appelle La femme, le cocher et le cheval. C'est page 180. C'est remarquable. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Parce que vous dites on est à un tournant là.
Oui, alors, je pense que cette histoire qui a été réelle, puisqu'elle a été rapportée donc par le sous-directeur de l'école vétérinaire de Maisons-Alfort, qui est un de mes héros, François Hilaire Gilbert, oui. Qui est très 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 vite conscient de la régénération républicaine de l'art vétérinaire. François Hilaire Gilbert disait aux apprentis vétérinaires républicains, sur lesquels Malik Mella a fait une magnifique thèse, il disait les animaux sont nos compagnons de travail. Traiter les animaux comme nos compagnons de travail. Bon, ça veut pas dire que François Hilaire Gilbert était végétarien ou qu'il avait cette volonté à tout prix de sauver tous les animaux, mais en revanche, il avait, en tant que médecin des animaux, senti à quel point le bon traitement et la bonne santé des animaux étaient déterminantes, d'abord, d'une relation vertueuse des nouveaux républicains qu'il fallait former, la République venait de naître, d'une qualité donc de vie pour les travailleurs et pour les animaux, et en même temps donc d'une meilleure républicanisation, j'allais dire. De telle sorte que lorsqu'il écrit à la décade cette anecdote qui est très forte, cette femme du peuple, on imagine sûrement illettré, qui s'interpose entre le cocher et le cheval pour faire obliger le cocher à s'arrêter alors que les hommes autour n'ont pas eu ce courage-là, et qu'un bourgeois à côté d'elle dit « Mais c'est son cheval, ouais. Il fait ce qu'il veut. » Gilbert n'est pas intervenu, mais il est interloqué, il est choqué. Il raconte l'histoire quand il revient chez lui. Et c'est très intéressant parce que c'est toute une sociogénèse qu'il raconte. Cette femme du peuple qui doit se sentir en empathie avec ce cheval battu, brimé, et ce bourgeois qui, triomphant après la Révolution, dit « Mais l'animal est une chose, c'est la propriété du charretier, il en fait ce qu'il veut. » Eh bien non, ce n'est pas parce que c'est à lui qu'il en fait ce qu'il veut. L'animal est un être sensible, il est vivant, il a droit à des soins puisqu'il travaille, et c'est ce que démontre François Hilaire Gilbert. Mais ce qui est intéressant, c'est que en vis-à-vis, vous avez vu, voilà, j'ai choisi une affiche, celle de la Société protectrice des animaux, datée de 1904.
Ouais, c'est ça. C'est
dans l'imaginaire et dans la sensibilité, j'allais dire européenne, peut-être dans d'autres civilisations que je connais moins bien, il y a une obsession, il y a une hantise. Vous l'avez rappelé au travers de Nietzsche, mais Freud a des pages très 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 belles aussi sur cette hantise ou ces névroses qui naissent chez les enfants de voir des images de chevaux battus. Je pense qu'il y a une sorte de quotidienneté, une banalisation de la maltraitance animale au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, mais avec la croissance des villes et avec l'industrialisation, ça devient beaucoup plus visible, qui est très marquante pour les esprits. De telle sorte que la Société protectrice des animaux se crée en 1846, de telle sorte que le général Gramont, général de cavalerie, qui connaît la souffrance des animaux sur le champ de bataille, fait voter la première loi par la Seconde République. Ce n'est pas un hasard si ce sont la Première et la Deuxième République qui se sont intéressées aussi aux droits que pouvaient avoir les animaux, fait voter donc la première loi qui punit ceux qui maltraitent sur la voie publique leurs animaux. C'est évidemment insuffisant, mais c'est quand même un premier jalon important dans l'histoire de la loi et du droit en faveur des animaux.
Alors, vous n'avez pas employé le terme, Pierre, mais c'est exactement ce qui justifie les 39 histoires présentées en 100 pages dans la dernière partie du livre. C'est la plus longue et c'est Violette Pouillard qui écrit la note introductive sur ces 200 ans. Industrialisation et sensibilité à l'ère contemporaine. On voit effectivement que va se constituer une sensibilité qui monte en puissance. Alors, on les retrouve dans les différents chapitres. La fameuse girafe Zirafa, elle a eu une glorieuse ancêtre à l'époque de la Perse avec une girafe. Qui était, on ne sait pas si c'est une girafe d'ailleurs, vous dites, ou une okapi, mais une girafe qui avait été offerte à l'époque à Persépolis. Et ben, Zirafa, elle arrive en France, je crois, en 1838, quelque chose comme ça.
27,
c'est encore sous Charles X, sous Villèle, le premier ministre de Charles X. Après, ça va déboucher sur les lois scélérates, mais bon, Zirafa, elle arrive à Marseille, elle fait une espèce de parcours, de Tour de France. Elle est très célèbre. Mais alors après, vous voyez, on change complètement d'époque. Elle a la petite chaîne Laïka que les Soviétiques envoient dans l'espace en 1957. Mais aussi la partie animée par Violette Pouillard nous parle de la naissance des abattoirs en 1818, du Père Lachaise des animaux en 1899, du dernier chien de Jack London en 1917, il s'appelait Michael. La lutte contre la chasse aux baleines, bien sûr, des bébés phoques, etc. etc. C'est un chapitre, c'est une partie qui est foisonnante. On n'a pas le temps, parce que je veux qu'on termine par la conclusion. Vous l'avez intitulé « Point de futur sans les animaux ». Et je termine parce que votre livre ambitionne d'être. Vous dites, page 287, ce livre ambitionne d'être un levier pour des convivances futures, à condition de savoir écouter, observer et reconnaître dans les gestes, les formes de vie et les résistances des animaux, les signes d'une autre manière d'habiter le monde. Et vous mettez l'accent sur une histoire commune qui s'inscrit non seulement dans une histoire longue, mais dans une véritable anthropo-histoire. Et donc, vous dites bien, il n'y aura pas de futur s'il n'y a pas d'animaux.
Ben écoutez, l'écocide dans lequel nous vivons et le déni des droits de la nature, ou du moins l'exploitation permanente des richesses de la nature, les êtres humains n'ont jamais autant tué d'animaux qu'aujourd'hui. Donc, notre constat était le suivant. Notre constat était le suivant, que n'importe quel éthologue, historien, spécialiste de l'histoire des animaux, observateur des animaux, peut constater, et qui fait que le paradoxe des Lumières continue de façon dramatique. Jamais nous n'avons été aussi sensibles à la cause animale. Jamais les êtres humains n'ont tué autant d'animaux. Comment faire avec ce paradoxe-là ? Est-ce que nous terminions de façon très pessimiste ? On peut l'être. Est-ce que nous terminions de façon constructive ce que l'on a voulu être, sans cacher l'écocide et la disparition des espèces à grande vitesse depuis les 50 dernières années. En disant cela, c'est effectivement la prise en compte de tout un espace à recomposer, de toute une géopolitique, vous employez le terme tout à l'heure, donc, et d'un environnement à l'intérieur duquel il faut que les hommes plus responsables, je crois que c'est un mot qui est désormais à la clé de la lecture de nos crises politiques, que la responsabilité de chacun, des citoyens ou des plus importants dans la chaîne décisionnaire des prise de décisions politiques qui vont engager les humains pour les dizaines d'années qui vont venir, prennent désormais de façon systématique en compte ce que doit être aussi le devenir des relations des humains avec les animaux et des animaux avec les humains pour qu'il y ait une salvation possible des humains avec les animaux. C'est en ce sens qu'il n'y a pas de futur possible sans les animaux.
Merci beaucoup, Pierre Cerna, donc l'un des quatre co-auteurs avec Clémentine Giraud, Violette Pouillard et Marc Dosprit, de Animaux et humains, une histoire partagée de la préhistoire au XXIe siècle. Je remonte encore une fois la couverture. Merci beaucoup, hein, et c'est chez Textuel. Merci, Pierre. Au revoir.
Merci à la librairie Molin. Merci.